Coulam.
Daniel Knoll, bonjour.
Bonjour.
Merci Daniel Knoll d'avoir accepté de cet entretien aujourd'hui. Nous traversons une période pour le moins troublée avec un tournant quelque peu inquiétant dans l'affaire Sarah Halimi, le fait que Traoré ait été considéré comme pénalement irresponsable et donc non susceptible d'être jugé pénalement. On verra ce que le pourvoi en cassation donnera, quoique pour ma part je suis quelque peu inquiet du fait que le parquet général n'a pas montré véritablement une empathie dans ce sujet. L'affaire Mireille Knoll, pardonnez-moi cette qualification qui est extrêmement difficile, est parallèle à l'affaire Sarah Halimi, puisque les deux assassinats ont des similitudes et se sont déroulés à une année pratiquement d'intervalle. Alors Daniel Knoll, pardon pour les questions que je vais vous poser, parce que c'est pas facile d'évoquer la mémoire de votre mère. Perdre une mère, c'est déjà terrible, mais le perdre dans les conditions qui ont été celles de sa disparition, c'est absolument insupportable.
Absolument.
Où en sommes-nous de la justice? Peut-on espérer un procès bientôt?
J'en doute, parce qu'on espérait avoir des conclusions assez rapides, et on s'aperçoit que ça traîne. Alors, nous espérons que ça ne traînera pas trop longtemps quand même. Mais pour l'instant, on est toujours dans l'attente.
Au niveau des juges d'instruction, il n'y a pas d'ambiguïté. Le caractère antisémite est retenu et la responsabilité pénale n'est pas contestée?
Non, car les juges d'instruction ont agi avec beaucoup plus d'intelligence et de finesse que dans le cas de Sarah Halimi. Ils ont mis sur écoute la mère de l'assassin, enfin d'un des deux assassins, on ne sait pas lequel c'est. Et ils ont pu ainsi avoir de bien étranges conversations.
C'est-à-dire ?
Des conversations qui étaient d'abord interdites, puisque quand vous êtes en prison, quand vous êtes en prison, vous
n'êtes pas censé téléphoner
à votre mère. Et puis en plus, on voit le niveau du prisonnier qui est vraiment assez vulgaire.
La manière dont ils ont parlé, ils ont évoqué l'affaire et ils ont évoqué votre mère.
Oui, c'est assez insupportable. La vieille, le son est péjoratif. Mais ils ont été quand même très loin, les juges d'instruction, puisqu'ils ont découvert que en 2015, ce fameux Yassine était déjà en prison et il avait apporté son soutien au frère Koulibaly sur un mur.
Ça en dit long. Il y a eu Yassine et Alex qui se sont renvoyés la balle mutuellement, à savoir qui portait la responsabilité des coups de couteau. Est-ce que cela a été tranché?
Absolument pas. Ils continuent tous les deux
à se renvoyer la balle.
À se renvoyer la balle, oui. On espère que le procès aidera à déterminer qui est l'assassin.
Sur le plan procédural, on attend donc les conclusions du juge d'instruction, on peut espérer ensuite un renvoi devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises plutôt.
Oui, là, pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres. Ils ne lui ont pas trouvé d'excuses et on espère qu'ils n'en trouveront pas. Mmh. On craint toujours le pire.
Alors, le dossier de l'assassinat de votre mère revêt aujourd'hui une lumière particulière dans le contexte où la communauté juive, mais nombre de Français démocrates également ont été choqués par la décision du juge d'instruction dans l'affaire Sarah Halimi de considérer que l'assassin Traoré n'était pas pénalement responsable en raison d'une perte de discernement ponctuelle liée à une prise de substance illicite. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Un choc émotionnel. En fait, dans cette histoire, on tient compte des textes, mais on ne tient pas compte de l'humain. À aucun moment on tient compte qu'il y avait une femme qui s'appelait Sarah Halimi, qui était une femme qui avait l'air d'être extraordinaire, qui était professeure, il me semble, ou médecin. Et on ne parle que de Traoré, comme si c'était un pauvre type qui fumait un joint, mais qui a réussi quand même à passer dans un appartement où il y avait du monde, enjambé alors qu'il était soi-disant dans des délires. Il a enjambé le balcon sans se casser la gueule, et il a fait tout le mal qu'il a pu faire. C'est inadmissible. Humainement, c'est inadmissible. C'est insupportable. Et je le dis avec beaucoup de force, on ne peut pas accepter cela.
Vous avez des contacts avec la famille, avec le frère notamment de Sarah ?
Alors, je l'ai rencontré lors de la manifestation qui a eu lieu dimanche. Et j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'il a pu expliquer. Et on s'aperçoit que vraiment, des fois, la justice, on a envie de se tirer une balle dans la tête en se disant « mais la justice n'est pas justice ».
Alors, si on essaie d'élargir un petit peu le champ d'analyse, souvent, l'argument ou le prétexte de perte de discernement ou d'antécédent psychiatrique est mis en avant pour essayer d'atténuer la responsabilité des terroristes. C'est un élément que l'on voit un petit peu partout aujourd'hui. Cela nous amène une question philosophique. Est-ce que par essence, le fait d'être terroriste n'est pas consubstantiel au fait d'être dérangé psychiatriquement ? Est-ce que c'est vraiment une cause qui peut atténuer la responsabilité ?
Un exemple. Vous êtes en voiture. Il y a un gars qui vous fait une queue de poisson. Vous êtes des gens sympathiques, mais il vous a fait une queue de poisson. Vous pouvez descendre de la voiture et commencer à vous battre comme des chiffonniers juste pour une bêtise pareille. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a tous nos crises de folie. Donc partant de cela, tous ceux qui assassinent leurs femmes, leurs enfants, leurs mères, leurs grands-mères, des innocents partout, ils ont tous un moment de folie, parce que c'est pas normal de tuer. C'est insupportable de penser qu'on puisse tuer même un animal, même un chien, même un chat, le mettre dans un four pour le sécher. Enfin bon, c'est des choses insupportables. Donc on ne peut pas accepter cette logique de la loi des hommes quand il s'agit des êtres humains. Ce n'est pas possible. Les êtres humains ont besoin qu'on pense leur plaie. Et on peut penser leur plaie, et encore entre guillemets, qu'avec un vrai procès.
Alors, la question du terrorisme devient en France une véritable priorité. Le terrorisme ou les actes antisémites, mais nous sommes exactement dans le même univers. Il y a de plus en plus de livres qui paraissent ces derniers temps pour essayer de nous faire comprendre un phénomène qui semble provoquer une sorte de déni au niveau gouvernemental. C'est la responsabilité des frères musulmans, d'une manière générale, sur les sociétés aujourd'hui, et un islam politique radical qui cherche à s'imposer. On voit encore dans les dernières affaires c'est les pires ceux-là, des non-musulmans d'origine convertis à l'islam qui deviennent extrêmement véhéments. On avait jusqu'à la Shoah tendance à considérer que l'antisémitisme, c'était essentiellement d'origine d'extrême droite. On a le nouveau phénomène aujourd'hui que les médias ont mis beaucoup de temps à véritablement identifier, qui est celui d'un islamisme radical. Avez-vous d'abord partagez-vous ce sentiment et la reconnaissance d'une quelconque compréhension par les autorités autorités gouvernementales, est-ce qu'ils font ce qu'il convient de faire, est-ce que pour éradiquer ce phénomène?
On dirait qu'en France et en Europe, il y a une cécité. Ils ne comprennent rien à ce qui leur arrive. Ils n'ont pas compris que les fondamentalistes, les salafistes, je parle bien que des salafistes, je parle pas de la grande majorité de la communauté musulmane qui est tout à fait respectable. Mais les salafistes ne raisonnent pas comme nous. Ils en ont rien à faire de nos lois. Ils en ont rien à faire de nos religions. Il n'y a qu'une chose qui compte pour eux, c'est Allah. Et ils sont prêts à mourir pour lui. Ils lisent le Coran d'une façon fausse. Ils disent le Coran d'une façon extrémiste. Et tout ce qu'on leur dit, ça les amuse. Ils se moquent de nous et ils nous tuent. Au nom de Allah. Et tant qu'on n'aura pas compris en France qu'il faut lutter, et en Europe, qu'il faut lutter contre ces gens-là en interdisant complètement, en rapatriant dans leur pays les gens qui transfèrent, véhiculent ce genre d'idéologie, eh bien on aura tout faux. Et la France ira de plus en plus mal, et l'Europe ira de plus en plus mal. Et je pense que malheureusement, nous les Juifs, on est comme toujours les premiers, les sentinelles à avertir le reste du monde de ce qui va se passer. Parce que regardons ce qui se passe aussi aux États-Unis, c'est une catastrophe. Et les Américains, on a l'impression, sont aussi des grands enfants qui ne comprennent pas tout à fait tout ce qui leur arrive.
Alors, je vais peut-être vous titiller un petit peu. En France, on a évidemment des relais d'opinion qui sont plus ou moins complaisants par rapport à cette idéologie. Et j'en parlais avec Yann Wax à votre place il y a deux semaines maintenant, notamment dans ce qu'il est convenu d'appeler les islamo-gauchistes qui vont à la conquête des masses musulmanes les plus radicales, les salafistes notamment auxquels vous faisiez allusion, en espérant trouver leur suffrage dans les cas des différentes élections. Ils constituent, pense-t-on, le prolétariat de substitution. C'est vrai que dans nos années 68, c'est vrai qu'il y avait la lutte de l'extrême gauche pour la défense du prolétariat. Le prolétariat aujourd'hui, on n'en a plus vraiment. Et donc, ces musulmans, dans un cynisme politique, peuvent constituer, pense-t-il, une alternative. Et je pense à quelqu'un, et c'est là où je vous titille, dont vous n'avez pas souhaité l'absence dans la manifestation de soutien à votre maman, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui semble-t-il pète les plombs. Je veux dire, aujourd'hui, par rapport à son regard sur les Juifs ou Israël, il est plus étanche.
Oui, bien entendu. L'appel que moi j'avais fait à l'époque, c'était à tous ceux qui ont une maman, sans distinction. Et ça s'arrêtait là. Il n'y avait aucune notion de politique de ma part. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui font de l'opportunisme politique et qui ne comprennent rien à ce qui va leur arriver. Ça va leur revenir comme un boomerang dans la tête, et ce jour-là, bah, il ne faudra pas qu'ils viennent se plaindre.
Alors, il n'y a pas un jour sans qu'une nouvelle manifestation d'actes antisémites. Alors, ça peut provenir parfois, d'ailleurs, encore aujourd'hui, l'extrême droite. Il y a une convergence des haines. On voit notamment les profanations de cimetières ou certaines formes d'agressions qu'on identifie ici et là. Alors, c'est curieux parce que on peut identifier une convergence des haines antisémites, et puis de l'autre côté, en parlant sur le plan politique cette fois-ci, si on met le total des points espérés par la France insoumise et par le Rassemblement national, ils deviennent potentiellement un groupe, peut-être comme en Italie à un moment donné, ou susceptible de prendre le pouvoir. D'une manière générale, pour les Juifs, dans l'histoire de l'humanité, les extrêmes, ça n'a jamais été véritablement bon.
Non, ils ne seront jamais nos amis, ça c'est clair. N'oublions pas les églises saccagées. Tous les jours, une église est saccagée. Et il est important de rappeler ce que souffrent aussi les chrétiens d'Orient.
Ah oui.
Très important. Vous savez, il y a toujours eu, de par le monde, des gens qui sont prêts à détruire les autres pour prendre le pouvoir. Et là, on est à un moment peut-être un peu délicat de la société française. Il faut espérer qu'il y aura un sursaut. Mais pour nous, juifs, de toute façon, ma position est toujours la même. Je pense toujours qu'il n'y a pas d'avenir pour les juifs en Europe. Et que le monde est grand et il y a plein d'endroits magnifiques où on peut s'exprimer, où on peut briller par notre façon d'être.
Alors ça, c'est la réponse du juif errant. C'est-à-dire, lorsque vous avez commencé votre propos, il n'y a pas d'avenir pour les juifs en Europe, je me suis dit, tiens, on va avoir un discours sioniste très engagé, l'avenir du peuple juif, c'est Israël. Eh ben non, ça a été effectivement comme la poursuite des pérégrinations des juifs dans le monde depuis la destruction des temples. Il n'y a pas un sens de l'histoire, selon vous, qui doit conduire, on va reprendre l'expression biblique, le rassemblement des exilés.
Il ne faut pas oublier que les Juifs, partout où ils ont été, ont toujours apporté énormément de science et de connaissances aux gens qui étaient autour. En fait, on a toujours cherché à faire du bien. C'est les autres qui l'ont refusé. Mais sinon, on était là, on a toujours été positifs et on reste toujours comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Enfin, j'ai pas mal voyagé. J'ai pu constater que partout dans le monde, il y avait des endroits magnifiques où les Juifs pourraient très bien vivre. Et des fois, on trouve même des bêtes rabades dans des endroits où on s'y attend pas. Et c'est surprenant. Et quand on parle avec le rabbin, et ben, il vous dit, on est très bien ici, on est bien considéré, les gens ne nous embêtent pas. Et ça prouve bien qu'il y a de la place encore pour ceux qui ont l'esprit d'aventure, d'aller ailleurs et de faire des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas croire que l'Europe a le monopole des possibilités. Oh, c'est loin de la réalité.
Alors justement, je reprends Yann Moix également, qui lui évoquait l'Asie. En Asie, Israël ne connaissent pas, les Juifs ne connaissent pas, ce n'est pas du tout le centre de leur priorité.
Absolument.
Donc il n'y a pas d'antisémitisme par essence.
Non, et même au contraire, puisque un exemple que j'ai du Betrabat de Manille, qui est extrêmement sympathique, c'est un Chinois qui lui a offert le terrain pour pouvoir construire la synagogue.
Pour quelle raison ?
Sympathie. Et il vient régulièrement s'intéresser à la religion. Il pose des questions au rabbin et qui donne des cours à quelques Philippins qui vivent là-bas. C'est très intéressant et très souvent on rencontre des juifs du monde entier et même des juifs français qui vivent à l'étranger, mais j'en dirai pas plus.
Alors, pas d'avenir véritable pour les Juifs en Europe. En France, ça fait partie de l'Europe. Et puis, probablement, c'est un des pays où les exacerbations sont les plus violentes. Vos rapports avec les pouvoirs publics, avec le gouvernement, avec le président de la République, vous avez eu des contacts. Qu'est-ce que vous avez ressenti de leur part ?
Ils sont tous extrêmement sympathiques avec nous parce qu'on a subi un drame incroyable. Le président a été exemplaire, mais je vois qu'on a eu des gens depuis le début comme Laurent Wauquiez, qui nous a beaucoup surpris et agréablement surpris, a toujours été à nos côtés et aussi Anne Hidalgo qui a tenu sa promesse du début, c'est-à-dire d'avoir bientôt une allée Méric Knoll qui devrait être inaugurée début février.
Avant les élections municipales.
Avant les élections municipales.
On est au début de l'année 2020, il y a des rendez-vous donc avec l'histoire. Pénalisation de Traoré, donc qui a priori, sauf revirement de la Cour de cassation, ne devrait pas être jugé pénalement. Et parallèlement, vous espérez le procès des assassins de votre mère pour cette année. C'est ça les deux rendez-vous par rapport à ces deux crimes odieux qui se sont déroulés à une année d'intervalle. C'est les rendez-vous importants qu'on espère pour 2020.
On espère qu'il y aura procès pour Traoré et il y aura procès pour les assassins de ma mère. On espère toujours et je crois qu'il faut continuer à se battre jusqu'à le plus longtemps possible, en tout cas pour que Sarah Halimi ait un procès. Pas elle, mais l'assassin, bien sûr.
Dernière question, comment allez-vous personnellement? Comment va votre frère?
Il va bien, il prend toujours beaucoup de recul et il est avec moi dans l'association et on essaye de faire des choses, comme je t'ai montré tout à l'heure, avec notre ami Alain Krief, notamment la synagogue de le 5 et le 6 février pour un concert.
Vous avez des discussions toujours, parce qu'il est arrivé par le passé que vous n'étiez pas d'accord. Il y a toujours cette ouverture sur le dialogue, sur le pile-poule. On peut se disputer dans le bon sens du terme.
Bien sûr. C'est très difficile d'avoir une position comme la mienne parce que c'est normal. Les gens se sont habitués à vivre en France dans un certain confort et ils ne pensent pas qu'ils puissent avoir la même chose ailleurs. Et c'est faux. C'est faux. La vie, elle peut être belle n'importe où. Il faut bien choisir le pays, ce n'est pas évident, mais c'est faisable.
Daniel Knoll, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette année?
La santé.
Au mine, comme on dit, que directement de votre bouche dans les oreilles de l'Éternel.
Ouais.
Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. On va suivre avec beaucoup de passion la suite des événements. Vous êtes ici chez vous et merci d'avoir accepté de nous rendre visite aujourd'hui.
C'est avec grand plaisir. Coulam.